Premier rendez-vous, Pauline Vrolix.
Un après-midi de personnalité, une première rencontre toujours singulière en direct sur La Première. Notre première invitée, ou plutôt notre première invitée car c'est un homme, en termes de tendance, a toujours une longueur d'avance. Jurassien de naissance, fribourgeois d'adoption, connaît plusieurs réalités professionnelles durant sa vie. Enseignant spécialisé, journaliste plurimédia, marin voguant sur l'Atlantique, il se dit aussi architecte en information et fait ses preuves comme chef de projet sur le web et comme créateur d'entreprise. Son identité d'auteur est aussi à l'honneur depuis 2013. Sorti tout droit de sa fertile imagination, ce tout jeune sexagénaire commence depuis janvier la publication des Déjantés érotiques, des histoires voluptueuses à lire, écouter et regarder sur son site lepoissonvolant.ch en collaboration avec 12 artistes femmes. Notre deuxième invité est un ancien éleveur bovin devenu antispéciste. Aujourd'hui travailleur social en Valais, ce vaudois de 39 ans grandit dans une ferme où très jeune, il se lie d'amitié avec toutes sortes d'animaux. Son rêve d'alors, c'est de devenir vétérinaire. Un rêve qu'il abandonne par loyauté familiale pour reprendre l'exploitation du grand-père. Avant que tout explose dans son cœur et dans sa vie et qu'il ne se réoriente d'abord comme agent de sécurité, puis comme travailleur social. Auteur du livre « Les vaches pleurent dans les coulisses des élevages » sorti en 2020 aux éditions Nature Libre, ce militant parle des bêtes comme d'animaux non humains pour nous rappeler que nous en sommes. Notre premier invité est Pierre Crevoisier, notre deuxième invité est Jean-Marc Charrière. Bienvenue dans Premier Rendez-vous.
De 14h à 15h, Premier Rendez-vous.
Bonjour Jean-Marc Charrière.
Bonjour.
Bonjour Pierre Crevoisier.
Bonjour.
Et bienvenue à tous les deux.
Merci.
Pierre Crevoisier, les auditeurs et auditrices de La Première sont connus, connaissent votre voix parce que vous avez travaillé sur nos ondes, Première, Espace 2, encore à la télévision aussi avant.
Avant, effectivement, à Berne.
Aussi.
À Berne aussi, à Radio Suisse Internationale, encore avant, effectivement, dans la trajectoire un peu multiple que vous avez décrite tout à l'heure. Voilà, effectivement, j'ai quitté il y a 2 ans.
Pierre Crevoisier, un premier rendez-vous qui vous a beaucoup marqué, comme c'est la coutume dans Premier Rendez-vous. Vous avez choisi de parler de quoi ?
J'ai choisi de parler de la rencontre avec mon fils.
Comment il s'appelle votre fils ?
Mon fils s'appelle Maxime. Et en fait, de la rencontre avec sa naissance. Je crois que pour moi, la rencontre avec un enfant au moment de sa naissance... Je me suis rendu compte que c'était la chose la plus extraordinaire que j'ai vécue dans mon existence. Il pourrait y avoir mille rendez-vous, mille premières rencontres possibles, mais celle-là était absolument extraordinaire. Elle a commencé quelques mois avant, bien entendu. Alors, j'étais avec sa maman sur la Méditerranée. Elle a détesté ça.
La voile ?
La voile, oui. Elle a détesté la voile. Elle était malade. Et à un moment donné, on arrivait dans la baie de Saint-Trope, et elle me dit, mais si je suis malade comme ça, c'est peut-être parce que je suis enceinte. Mm-hmm. C'est quoi ce village là-bas? C'est Sainte-Maxime. Hein? C'est joli, Maxime. Et voilà, ça a démarré comme ça. Et il est arrivé quelques mois plus tard, enfin 8 mois plus tard, mm-hmm. Et je me souviens très toujours de ce sentiment, de la manière dont ça éclate partout. Dans le cœur, dans le corps, dans la tête, etc., d'avoir un enfant entre les mains, ce petit être qui en même temps, il existe déjà, il est déjà un indépendant, autonome, il est déjà en train de nous dire « je suis pas toi, je suis moi », avec sa personnalité, avec sa manière d'être, etc. Et puis, quand j'ai la première fois que je suis sorti de la maternité avec lui, je me suis dit « ce petit con me traitera un jour de vieux con. » Là, c'est arrivé.
C'est vrai, c'est arrivé. Il a 22 ans, c'est ça, Maxime ?
Il a 22 ans maintenant, oui.
Ok, donc c'était ado, c'est là que ça a un petit peu chauffé. Ou...
Mais je l'aime profondément.
Bon, bah, très bien. Merci Pierre Crevoisier pour ce premier rendez-vous avec votre fils. On sent que ça chamboule, que ça remue et puis que ça crée aussi, j'ai l'impression. Jean-Marc Charrière, de votre côté, vous avez choisi de nous parler de quoi ?
J'ai choisi de parler de ma rencontre avec des lions de mer.
Des lions de mer.
Oui.
Tiens donc, alors ça c'est pas par ici ça.
Non, effectivement, c'était au Galapagos.
Ça ressemble à quoi un lion de mer ?
C'est une otarie. Mm-hmm. C'est une otarie.
Une grosse otarie ?
En fait, il y a différentes espèces d'otaries. Celle-là, c'est une espèce endémique qui fait, une femelle fait dans les 60-80 kilos. Elle se différencie des otaries par la forme, notamment du museau. Ça rappelle plus la forme d'un museau de chien, par exemple, pour donner une différence. Et donc, c'est des animaux endémiques de là-bas. Et donc je me suis retrouvé sur une plage et il y avait un groupe de femelles qui étaient sur un rocher. Et moi je m'apprêtais à me mettre à l'eau avec masque et tuba. Et nos regards se sont croisés.
Salut les filles.
Un peu ça, ouais. Et là, il y en a deux qui se sont mis à l'eau. Moi, je me suis mis à l'eau aussi. Et elles sont venues à ma rencontre. Elles ont commencé à jauger un petit peu qui j'étais, qu'est-ce que j'étais. Même si elles connaissent bien les humains, parce qu'elles sont assez familières là-bas, vu qu'elles sont, elles craignent pas l'humain, elles sont protégées, donc il y a pas de, ça c'est quelque chose
de raison qu'elles paniquent.
Exactement, ça c'est quelque chose qu'on a tendance à constater un peu partout. Les animaux sont protégés, ils nous craignent moins, ou là où ils nous connaissent pas aussi, ils nous craignent pas en fait, ou peu. Et donc là a commencé un tête-à-tête. Elles ont commencé à venir jouer, à me mordre les palmes, à me tourner autour à une vitesse. C'est hallucinant. Elles sont tellement à l'aise. Elles sont vraiment dans leur environnement. Elles sont agiles. C'est vraiment voluptueux. C'est beau. Et puis de fil en aiguille. Au début, il y avait une petite appréhension. C'est quand même un animal sauvage. Je suis dans leur environnement. Et puis, au fur et à mesure, elles ont commencé à se rapprocher de plus en plus, à venir de plus en plus près, continuer à me tourner autour. C'est marrant parce que j'avais l'impression que c'était plus elles qui venaient m'étudier, qui venaient jouer avec moi, plus que moi qui allais à leur rencontre, en fait. Et puis, de fil en aiguille, elles s'approchaient si près que je pouvais sentir leurs vibrisses sur mon visage. Donc, les vibrisses, c'est les moustaches. Mmh. Et il y a un moment, c'était... j'en avais une qui... C'est comme si elle s'arrachait, en fait, comme si j'étais un jouet, puis qu'elle se l'arrachait, en fait. J'en avais une sur moi qui me tenait avec ses nageoires, pendant que l'autre essayait de chasser l'autre pour... c'était hallucinant. Et puis, elle me mordait... En fait, elle me mordait, mais comme un chien qui joue, en fait. Elle me mordait les jambes. À un moment, il y en a une, elle me mordait l'épaule ici, mais gentiment, elle me faisait pas mal ou peu. Mais elles ont quand même des dents pointues. J'ai quand même un peu des griffures, mais... mais c'était délicat. C'était intentionné. Il n'y avait pas d'agressivité.
De volonté de vous nuire, ouais.
Non, vraiment pas. Et puis, ça a duré comme ça. En fait, ce qui m'a sorti de l'eau, c'est le froid. Mais j'avais presque envie de partir avec elle, quoi. C'était,
tellement c'était intense.
Ouais, c'était vraiment un moment magnifique.
Pierre Croisier, pour les déjantés érotiques, les nouvelles que vous écrivez, ça pourrait être un bon début, ça, non?
Ça pourrait être un début si, effectivement, j'imaginais une scène avec des animaux. Mais en fait, si j'écris quelque chose sur les animaux, je vous assure, Jean-Marc, les animaux seront bien traités.
Jean-Marc Charrière, ça dit quelque chose de votre amour, en fait, des bêtes et de comment ça s'est passé aussi. Je crois que depuis tout petit, vous avez eu tendance à être en amitié avec elles, non?
Oui, absolument. Aussi loin que je me rappelle, que ce soit avec les animaux domestiques comme les chiens, les chats, mais aussi avec les animaux de la ferme, que ce soit les moutons, les vaches, enfin tous les animaux qu'on avait, et même d'autres animaux, comme par exemple j'ai recueilli une pie quand j'étais enfant, j'ai élevé une pie.
Un épisode totalement charmant dans votre livre, Les vaches pleurent dans les coulisses des élevages. Vous expliquez d'où vous venez, qui vous êtes et comment vous avez créé du lien avec tous ces animaux. Puis c'est vrai que l'épisode de la pie est quand même... c'est vraiment assez dingue de se dire qu'on peut entretenir une relation avec une pie. Et vous, vous dialoguez avec elle, elle est votre copine.
C'est ça. Mais c'est des pies, c'est des corvidés. C'est des oiseaux qui sont très intelligents, qui sont très facilement apprivoisables, en fait. Et en fait, on peut vraiment tisser des liens avec ces
animaux. Piquer votre porte-monnaie.
Oui, elle piquait tout, c'est pas des légendes, les pies sont bien voleuses.
Bon, après, elle met tout à la même place, donc c'est facile d'aller
chercher.
C'était
facile de retrouver, ouais.
Bon, Jean-Marc Charrière, on va un peu explorer tout ça, votre rapport aux animaux, votre parcours d'éleveur qui est ensuite devenu anti-spéciste. On va comprendre comment vous avez navigué dans ce monde-là pour en sortir et pour en faire autre chose. Mais avant ça, je vais vous demander, chers invités, de vous découvrir, de vous connaître, de vous poser des questions. Jean-Marc Charrière, je vous laisse quelques minutes pour en savoir plus sur Pierre Croisier. C'est parti, c'est à vous.
J'ai retenu que vous étiez navigateur... Faites de la voile.
Effectivement.
Et puis vous avez navigué un petit peu sur les océans.
Alors, il y a eu une longue période pendant les années 90 où j'ai beaucoup navigué, effectivement, où j'ai appris. C'était véritablement... On ose encore prononcer ce terme-là, un virus. C'était effectivement un virus. Je me souviens la première fois, c'était aux Antilles, pendant une période extraordinaire, 15 jours, dans les mers chaudes. Et j'ai commencé à apprendre à naviguer, d'abord sur le lac, permis lac, permis mer, et ensuite... À un moment donné, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse autre chose. Donc je suis parti, après avoir eu le permis de navigateur, j'ai été engagé sur un bateau et j'ai pris un an sabbatique pratiquement et je suis allé naviguer.
Et vous avez exploré.
Alors on est allé conduire un bateau qui était un bateau école. On avait des passagers qui venaient sur le bateau pour apprendre à naviguer ou pour faire des milles, des parcours. On est allé jusqu'en Guadeloupe pour conduire le bateau et ensuite le ramener au printemps.
Il y a des événements marquants dans une traversée comme ça.
Oui, alors ça,
j'imagine.
Oui, c'est plusieurs mois comme ça, mais ce qui m'a le plus frappé, c'était la semaine au retour où on avait cassé le pilote. On était deux et donc pendant une semaine, on a été obligé de se relayer toutes les deux heures à la barre.
Donc le pilote, c'est
le pilote automatique.
Ouais,
le pilote automatique qui nous permet, c'est quand même le troisième navigateur quand on peut l'utiliser, quand on ne peut pas l'utiliser. Et partant d'orage, de mauvais temps, vivre comme ça et se relayer à deux toutes les deux heures, ça c'était une sacrée expérience.
Merci Jean-Marc Charrière pour ces quelques questions. Moi, Pierre Courvoisier, j'en ai une. Je crois que vous êtes parti sur la mer parce que vous avez vécu un événement difficile. C'était pas forcément comme ça évident de partir sur la mer.
Ben, disons que j'avais de toute manière envie de partir, de faire ce voyage, de vivre un certain temps, de vivre longtemps en mer, puis de m'en imprégner. Et c'était pas nécessairement le moment qui était difficile, mais c'est vrai que c'était
l'élément déclencheur.
L'élément déclencheur, c'est la mort d'un ami. Il était beaucoup plus jeune que moi. Il avait 40 ans. Enfin, à l'époque, il était plus âgé que moi, mais plus jeune que l'âge que j'ai aujourd'hui. Vous avez dit 60 ans. Il avait 40 ans. Et tout d'un coup, il a disparu. Et d'ailleurs, c'est ce qui est très très curieux, c'est l'autre jour quand je songeais aux différents éléments, hein, vous nous aviez demandé de préparer un certain nombre d'éléments, et celui-là, c'était le jour de son anniversaire.
Oh.
Ouais, c'était ses synchronicités comme ça. Donc il a disparu. Et je me suis dit à ce moment-là, si j'ai un rêve, il faut que je l'accomplisse maintenant. Et c'est ce qui m'a permis de partir.
À l'époque, vous étiez dans quel genre de domaine? Parce que c'était pas forcément votre métier, être marin.
Non, j'étais journaliste à la télévision, et puis voilà, je suis parti.
Pierre Courvoisier, vous avez cette particularité d'avoir des bonnes idées avant tout le monde. Vous avez très vite senti le vent tourner avec Internet, par exemple. Vous avez été un des premiers à penser à un système de covoiturage, mais c'était encore un peu tôt, avant que d'autres s'en emparent. Mais vous avez eu comme ça plusieurs intuitions dans le domaine du web, par exemple, avant tout le monde. Vous expliquez ça comment ?
Si vous voulez, ma femme me dit toujours, je suis une boîte à idées. Parfois, en pleine nuit, je la réveille et je lui dis, j'ai une idée.
Elle doit aimer ça, tiens.
pas toujours, mais elle m'écoute. Voilà, mais bon, je regarde quand même si elle est réveillée ou pas, etc. Et c'est vrai que j'ai des fulgurances. Mais je me suis rendu compte aussi, vous l'avez dit, qu'il est toujours, il est sans doute tout aussi grave d'avoir raison trop tôt que trop tard. Et là, en l'occurrence, souvent, j'ai ces espèces de fulgurances, comme le web. Je me souviens de la première rencontre en 94. On avait monté un projet en 94. Personne ne connaissait le web. Mais en même temps, c'était beaucoup trop tôt. De monter quelque chose, une opération là autour, alors que personne n'en savait rien, mesurait véritablement ce que ça pouvait signifier. Même chose par rapport au covoiturage, je veux dire, c'était avant, j'étais pas le premier à avoir ce genre d'idée. Il y avait Blablacar qui s'appelait autrement, covoiturage.fr. Mais ici en Suisse romande, c'était une des premières. Alors, Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a cette espèce de d'élan? Alors, je suis très spontané à partir comme ça, à la fleur au fusil, et se rendre compte ensuite que c'est pas si simple.
Bon, Pierre Cavoisi, on verra si c'est simple ou pas de créer. Voilà, vous avez créé une sorte de plateforme qui s'appelle le poissonvolant.ch. Pour l'instant, on y trouve le début d'un calendrier qui s'appelle les Déjantés érotiques. C'est le projet que vous venez présenter et défendre aujourd'hui. C'est 12 nouvelles que vous avez écrites, accompagnées par 12 projets multimédia et aussi des écrits, du papier. Enfin voilà, on va décortiquer tout ça, mais avant, je vous donne la possibilité d'en savoir plus sur Jean-Marc Charrière. C'est parti, c'est à vous.
Jean-Marc, vous rêviez de quoi et à quoi quand vous étiez enfant ?
Je rêvais de vivre à côté des animaux. Je rêvais d'être vétérinaire. Ça, c'était mon rêve de gosse. Beaucoup de choses étaient liées au contact avec les animaux.
Les animaux.
Ouais.
Et est-ce que vous vous imaginiez ce que vous êtes maintenant ?
Non, pas du tout. Absolument pas. La vie, ça prend des chemins de traverse, j'ai envie de dire. C'est absolument pas du tout comme ça que je voyais mon avenir.
Ouais. Et vous, est-ce qu'à un moment donné, vous auriez pu imaginer ou avoir envie de vous fondre dans le monde animal, autrement que comme un humain ?
Oui. Ouais, je me verrais bien un oiseau.
Un oiseau?
Ouais, un oiseau, ouais. Ouais, je sais pas lequel, mais...
Un oiseau, ouais. Un rapace ou un passereau?
Non, mais j'aime bien les corvidés. Un corbeau, une corneille, un choc arabique jaune.
Un choc arabique jaune?
Ouais, choc arabique jaune. Je trouve qu'ils ont un vol. Enfin, quand on les voit évoluer dans la montagne, ils sont extraordinaires.
Qu'est-ce que vous pourriez raconter comme histoire vue du ciel?
Ouais, vu du ciel, je pense qu'on doit avoir un point de vue sur l'ampleur du désastre écologique qu'on est en train de vivre. Ça, c'est une chose, mais je pense qu'on peut aussi avoir un recul sur les choses, puis voir les choses avec un peu de hauteur aussi.
Et la première fois où vous vous êtes dit, je ne vais plus manger de viande, par exemple, puisque c'est ce qui vous amène là aussi, ici. Vous l'avez écrit dans votre livre, le fait d'être végane. La première fois où vous vous êtes dit, ce sera ça.
Oh, c'était enfant déjà.
C'était enfant
déjà. Oui, déjà tout gamin.
Ouais. Mais il y a quelque chose de super particulier dans votre famille, Jean-Marc Charrière, c'est qu'il y avait des agriculteurs, des éleveurs d'animaux de rente, mais... Vous ne mangiez jamais les animaux qui étaient élevés sur la ferme.
Non, nous sur la
ferme. C'est ça qui est comme ça bizarre dans votre famille, dans votre histoire familiale.
Ouais,
vous me racontez ?
On était un peu des extraterrestres dans le paysage. Mon grand-père a repris cette ferme en France dans le but d'en vivre. Et puis, il y a eu des projets qui ont avorté, des projets de poulailler, d'élevage de poulets industriels qui ont avorté. Et puis du coup, on a eu pas mal d'animaux qui sont venus se greffer, mais qui au départ étaient plus comme dans un sanctuaire en fait. Et puis c'est vrai qu'on n'a jamais mangé nos animaux parce qu'on s'est toujours un peu attaché à ces animaux et c'était pas concevable en fait de manger nos propres animaux.
Donc dès le départ en fait dans votre vie, il y a eu cette dissonance entre
absolument.
Le fait de s'attacher à des animaux, des animaux de rente, et puis ne jamais pouvoir les manger. Donc ça a commencé très tôt en fait cette tension à l'intérieur de vous, non ?
Complètement. Et puis donc moi je revendiquais déjà le droit de pas manger de viande et ça c'est surtout la viande à l'époque qui me posait déjà problème. Je rechignais à la manger, ça me rendait triste, ça me faisait jusque même vomir dans certaines circonstances. Mais il n'y avait pas de revendication comme ça pour un enfant dans ma famille. On mangeait ce qu'on nous donnait.
Vous avez été élevé à la dure d'une certaine manière, vous deviez finir votre assiette.
C'est ça, exactement.
Coûte que coûte.
C'était l'éducation de l'époque. J'ai vécu avec mes grands-parents, donc aussi avec une génération
encore en arrière.
Donc il y avait vraiment pas de revendications comme ça, mais les dissonances, elles étaient quand même là, du fait que on avait beaucoup d'affection pour les animaux, mais ça nous empêchait pas d'en manger ceux des autres. Et puis après, que les autres mangent les nôtres, après ça n'a pas été un souci non plus. Donc il y avait vraiment beaucoup de tensions par rapport à ça.
Pierre Cavoisier, vous avez une question encore ou je reprends la main ?
Allez-y.
Jean-Marc Charrière, alors le moment où vous décidez de devenir agriculteur, éleveur, il se passe quoi dans votre tête ?
En fait, Comme j'aimais le contact avec les animaux, c'était un peu le métier. Enfin, le contact aux animaux et à la nature, c'était le métier un peu de rêve, j'ai envie de dire. En tout cas, moi, j'avais beaucoup d'idéaux par rapport à ça.
Vous faisiez en fait un rêve, c'est ça?
Oui, c'est ça. Moi, je rêvais d'un élevage. Je voulais faire un élevage laitier. Ou par exemple, mes vaches seraient jamais réformées, c'est-à-dire qu'elles sont pas mises à la retraite. Dans le système laitier, les vaches, quand elles produisent plus assez ou qu'elles ont des problèmes de santé ou divers soucis de production, elles sont réformées, c'est-à-dire qu'elles vont à l'abattoir.
Et dans c'est intéressant aussi dans le vocabulaire, non, de dire réformées. En fait, ça veut dire
elles vont à la casse. Mm-hmm. Effectivement, il y a un langage aussi qui tend à minimiser ce qu'est l'acte. Et ça, on le voit dans divers domaines, dans tout ce qui touche à l'éthique animale. Et donc, moi, j'avais cet idéal, et en fait, ça s'est vite confronté, d'une part, à la réalité, parce que quand vous élevez des animaux, des vaches laitières, par exemple, pour faire naître un veau par année, donc ça veut dire que la moitié de ces veaux, ce sera des mâles. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut tirer un revenu des mâles? Bah, à part en les engraissant et puis en les emmenant à l'abattoir, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Et puis c'est pas la génétique qui permet, à part pour certains individus d'exception, c'est pas la génétique qui permet de gagner de l'argent avec un mâle. Donc ça voudrait dire que dans ce modèle-là, on se retrouverait avec un troupeau très rapidement qui grandirait et qui des animaux qu'il faut entretenir. Donc c'est pas rentable tout simplement. Mmh. Et puis après je me suis confronté à la culture du métier où quand je disais ça à l'école d'agriculture, on me prenait pour un débile quoi. Mmh. Purement et simplement, j'avais rien compris au système. Enfin, c'était.
Vous étiez un idéaliste, quoi.
Ouais. Oui, on peut dire ça. Mais un idéaliste.
Mais vous tenez combien de temps alors dans le métier?
Entre le moment où j'entre à l'école d'agriculture et le moment où je quitte la ferme, c'est 5 ans, 6 ans. 6 ans, et puis c'est 3 ans sur la ferme de mon grand-père.
Mais petit à petit, vous vous accommodez quand même, hein, de cette pensée, de cette culture. Vous y croyez, vous vous adoptez au fait ces codes-là pour pouvoir survivre, entre guillemets, réussir à performer dans le milieu de l'agriculture comme ça. Il faut adopter certaines règles.
Oui, il y a un moment donné, déjà, il y a le côté technique. Effectivement, si on met de côté les considérations éthiques, d'un point de vue technique, et ben il y a une façon, enfin il y a pas qu'une façon de faire, mais il y a des façons de faire qu'on doit suivre, sinon ça fonctionne pas. Donc ça c'est une chose. Et puis ensuite comment dire, il faut tirer un revenu
On imagine bien que vous n'allez pas pouvoir nourrir vos vaches si vous ne gagnez pas d'argent.
C'est ça, et puis c'est un milieu qui est aussi sinistré, il faut aussi le dire. Donc c'est pas facile, c'est un métier qui est difficile aussi à ce niveau-là. L'agriculture en Europe est sinistrée, sans subvention publique, il n'y a plus d'agriculture en Europe, Suisse incluse. Donc on évolue dans un monde qui n'est pas facile, avec toutes les tensions, les dissonances cognitives. C'est vraiment pas c'est pas facile, et puis il faut se conformer. Et puis l'autre chose que je voulais dire aussi, c'est que il y a un moment donné, j'ai fini par écouter un peu ce message qu'on me donnait, c'est mais il faut grandir maintenant, t'es plus un gamin, ça c'est des réflexions de gamin ce que tu dis là, donc de vouloir préserver les animaux, considérer que les animaux c'est des personnes, tout ça c'est pas des considérations d'adultes, ça c'est un discours d'enfant. Donc il y a un moment, j'ai pensé que c'était ça grandir, que c'était renoncer à ses valeurs d'enfant. Mmh. Et puis il y a aussi des enjeux identitaires, c'est aussi s'identifier, être reconnu par ses pairs. Il y a aussi des enjeux autour de ça. Donc c'est très complexe en fait. Et effectivement, je me suis conformé au système.
À quel moment ça casse alors?
C'est un trop-plein à un moment. Il y a eu plusieurs épisodes. Bon, le premier veau qui est sorti de mon élevage, où ça a été un peu un traumatisme, parce que on s'y était attaché, et puis il faut le charger dans une bétaillère qui va l'emmener à la mort. Et puis il y a ce dernier regard avec le veau qui comprend qu'il y a une tournure, il comprend qu'il y a quelque chose qui est pas normal. On lit la peur dans son regard. Et puis là, il y a une sensation de trahir l'animal.
Donc c'est cette première sensation de trahison. Puis je crois, il y a différents éléments qui se passent comme ça jusqu'à un moment où une de vos vaches mange, je crois, une canette ou un truc comme ça.
En fait, elle fait un corps étranger. En fait, les bovins ont tendance à, quand ils mangent et quand ils pâturent, c'est d'avaler un peu tout ce qui vient avec l'herbe. Mmh. Donc, par exemple, quand les gens jettent des canettes métalliques ou quelconque objet au bord de la route, ça finit dans les pâturages. Mmh. Et puis, y a des risques que les vaches avalent ces déchets, en fait. Et puis, quand c'est des déchets, en fait, c'est très dangereux pour une vache parce que ça, donc elles font un corps étranger et ça peut percer et remonter jusqu'au réseau, en fait, qui est une partie de l'estomac. Et ça peut les tuer, tout simplement. Et puis, souvent, ces animaux-là sont condamnés, de toute façon. Si on arrive à les sauver, à stabiliser le corps étranger, les vétérinaires déconseillent de faire des petits parce que lors du vélage, ça peut de nouveau
bouger
et puis permettre au corps étranger de continuer à faire ses dégâts, en fait. Et c'est ce qui s'est passé donc dans mon exploitation. J'ai une vache qui a fait un corps étranger, donc on repère assez facilement. Elles perdent l'appétit, elles sont apathiques, et puis il y a un signe qui ne trompe pas, c'est quand on leur pince un endroit du dos, elle se cambre, en fait. Et puis ça c'est signe révélateur du corps étranger. Et donc cette vache, je l'ai prise en charge, le vétérinaire est venu, on a fait tout ce qu'il fallait. Et puis il y a eu un regain, et puis après des événements fait que justement le corps étranger a été stabilisé et ensuite a...
Bon, en bref, elle finit par mourir.
Voilà, elle finit par mourir.
Et chez vous, ça crée un truc...
Ouais, ça a été la bête de trop, en fait.
Et là, vous lâchez tout. Vous dites adieu la ferme, adieu grand-père. Ouais. Vous devez vous séparer de la famille.
Oui.
Parce que tout le monde ne comprend pas ce qui se passe.
Non.
Et vous faites en gros, vous changez d'orientation. C'est un moment assez... c'est un peu la nuit noire de l'âme, c'est ça?
Oui, on peut dire ça comme ça. Ouais, c'est un moment difficile.
Et puis après, il y aura toute une réinvention.
Oui.
Mais avant ça, on va peut-être s'écouter une tranche de musique et certainement aussi revenir sur votre parcours, Pierre Crevoisier. Je vous propose qu'on écoute Les gens qui doutent, parce que vous avez douté, Jean-Marc Charrière. Et puis je crois que Pierre Crevoisier, vous l'aimez beaucoup, cette chanson. Vous voulez nous dire en quelques mots pourquoi?
Parce que j'ai douté aussi. Ça m'est arrivé. J'ai dû aussi parfois me réinventer. Et je crois qu'il y a une chose qui est difficile dans la rencontre avec certaines personnes. Les personnes qui ont trop de certitudes. Je crois que une part de doute, non pas le doute qui paralyse, mais le doute qui nous fait dire les choses peuvent être différentes que ce que je les pense, en tous les cas.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils ne semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui, avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien n'être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme, les daltoniens de l'âme, ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent et voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps. Et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'homme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs. Et qu'on les remercie, qu'on leur dise, on leur crie, merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse. Et tant pis pour vos fesses. Qui ont fait ce qu'elles ont pu.
La chanteuse Loulou sur la première qui reprend les mots d'Anne Sylvestre. Un choix par vous, Pierre Crevoisier. Vous qui aimez bien cette Loulou, son timbre de voix, sa sensibilité. Elle vous colle à la peau, c'est ça?
Chaque fois que j'écoute cette chanson, je pleure. J'ai la larme à l'œil. Hein. Non, c'est vrai que c'est... Je trouve que c'est tellement juste. Bon, ce sont les mots d'Anne Sylvestre, mais elle l'interprète de manière particulière. Et c'est tellement juste, cette manière. Parce qu'on les voit passer, ces gens. Hein, je doute aussi, mais je pense pas que je sois nécessairement à côté de mes godasses. Parfois, oui, mais je m'y mets volontairement. Parce que quand on regarde les choses de côté, on les voit toujours différemment.
Pierre Crevoisier, vous êtes journaliste, vous êtes aussi auteur. Vous avez plein de casquettes dans votre vie. Ces derniers temps, c'est celui de professeur tournesol du web podcast, auteur, on va dire quoi? Comment vous aimeriez vous définir aujourd'hui avec ce projet Les Déjantés Érotiques que vous allez nous présenter?
Alors je corrige peut-être, parce que vous l'avez dit souvent, déjanté érotique. J'aime bien ce mot, ce néologisme, déjanté érotique.
Ah oui, je le dis en deux mots, moi,
En deux mots.
Et alors, c'est pas le cas?
Non, c'est pas le cas. C'est vraiment déjanté érotique.
Ok.
C'est vraiment le néologisme que j'ai trouvé.
Qu'est-ce qu'il veut dire, alors?
Pour dire que c'est pas seulement érotique. Les textes que j'ai fait, que j'ai écrit, ne sont pas simplement érotiques. C'est pas l'érotisme des romans de gare, quoi.
Pourquoi le déjanté compte alors?
Mais parce que le déjanté c'est quelque chose d'autre, c'est un autre regard qui est. Alors je dis bien, je crois que je suis jamais vulgaire. J'appelle un chat, un cul. Tant pis pour vos fesses, disait Loulou. Elles ont fait ce qu'elles ont pu. Voilà. Mais en même temps, il y a quelque chose de surréaliste. Ce sont des situations qui ne peuvent pas exister. Et moi, j'adore. C'est d'ailleurs ma quête du Graal de l'écriture. Essayer de me mettre dans des situations que je n'ai jamais vécues, que je suis pratiquement certain de jamais vivre, peut-être. Hein, ça m'arrive et ça m'arrivera dans l'écriture, dans les formes de sexualité, par exemple, que j'ai jamais vécues. Je parle pas des animaux. Hein.
Jean-Marc, j'aurais resté tranquille.
C'est tranquille. Non mais et c'est la raison pour laquelle je trouve que inventer quelque chose, inventer un mot qui définit de manière assez sensible ce que j'ai envie d'exprimer. Voilà.
Mais comment vient cette idée de créer un calendrier, voilà, 12 histoires, 12 nouvelles que vous accompagnez par 12 produits d'artistes plasticiennes de Suisse romande? Qu'est-ce qui fait que ça décolle? Pourquoi vous avez cette idée-là?
Ben, je pense d'abord, parce qu'il y a un autre virus qui est arrivé, vous avez déjà entendu parler.
Oui, je crois, ouais. Je m'en rappelle. Ouais, c'est le qui fait qu'on porte des masques tout le temps, voilà, là, par
exactement,
exemple.
Exactement, on porte des masques, etc. À l'époque, c'était l'an dernier, j'étais sur un projet de roman et j'étais complètement bloqué. Un peu sidéré dans cette situation, même si j'ai la chance aussi de vivre dans la campagne, au milieu de la neige et des arbres, etc., de pouvoir sortir. Et donc pendant quelques temps, j'ai vécu cette sidération, et donc cette panne d'écriture. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose qui soit plus léger, qui soit plus immédiat. Donc je suis allé chercher dans mes cahiers, il y avait l'une ou l'autre histoire que j'avais déjà écrite dans cette idée-là. Et puis la première, c'était Le secret de Maria. Je l'ai sorti, mais je me suis dit, ah tiens, il y a peut-être quelque chose à faire autour de ça. Et je suis parti, en 3 jours, j'avais écrit la deuxième, en une semaine, j'en avais écrit 3.
Vous avez retrouvé le feu sacré, c'est ça?
Voilà, hein, et c'est reparti. Puis après, je me suis dit, mais je pourrais en faire quelque chose. Ah oui, j'avais cette idée de les faire illustrer par des amis illustrateurs. Au départ, c'était illustrateur. je savais à qui je peux m'adresser. On était dans la situation du Covid, donc dans le premier confinement. Donc je suis allé voir sur Internet, je me suis renseigné. Plus j'avançais, plus je me disais, mais c'est avec des femmes qu'il faut que je travaille. C'est à des femmes qu'il faut que je m'adresse. Un homme qui parle de sexualité et qui demande à des femmes d'y répondre avec leur sensibilité propre. Et donc je suis parti comme ça. Puis,
elles ont répondu volontiers, ces 12 très, artistes. Très. Bonjour madame, ding dong,
bonjour madame,
ding dong. J'ai envie de parler de fesses avec vous.
Oui, c'était, j'y suis allé par email d'abord en leur envoyant un enregistrement de la première histoire.
Donc c'est votre voix, hein, c'est bien ça.
Avec ma voix, le PDF, etc. C'était une première maquette. Et puis ensuite, il y a eu très vite des contacts et ça s'est fait très naturellement, très très vite. En 3 semaines, j'avais les 12 artistes qui avaient dit banco, on y va. Donc ça, c'était. Je parlais tout à l'heure d'être trop tôt ou trop tard. Je crois que c'est la première fois que j'ai l'impression de pouvoir monter quelque chose brique par brique et que les choses avancent naturellement.
Être dans les temps. Bon, on va écouter un extrait du podcast que vous avez créé à l'occasion de toutes ces nouvelles et de tous ces accompagnements en illustration. Cette fois-ci, il s'agit de l'arbre.
C'est celle de ce mois.
Elle avait regardé Adrien dans les yeux, lui aurait voulu les baisser, mais il soutint le regard. Les joues empourprées, dès qu'elle prononça ces paroles, une invite que tout le monde entendit, comprit, parce que c'est ce qu'elle voulait. Ses mains murmurèrent d'accord du bout des doigts, avant ses lèvres. Elle se retourna, et 1000 regards interdits suivirent ses jambes jusqu'au coin de la rue. Le lendemain, Adrien rassembla une brassée pleine de camélias, et il se rendit au rendez-vous. Elle l'accueillit sur le pas de sa porte. Ils parlèrent peu d'abord. « Pourquoi moi ? » demanda-t-il. « Parce que tu écoutes les fleurs, » répondit-elle. Elle lui dit qu'elle préférait Bellini à Verdi. Sa robe tomba sur les premières notes de Norma. Elle le déshabilla lentement, un vêtement après l'autre, découvrant ses frissons à mesure qu'elle glissait ses doigts dans ses recoins. Chaque centimètre de peau arpentée, une terre sensible découverte comme si c'était la première fois, une Amérique à chaque caresse, un continent inconnu où elle déposait des baisers explorateurs, s'emparant de ses mains à lui, les déposant sur des seins d'une joliesse de miniature antique, se tournant ensuite pour se lever entièrement contre lui, épouser ses formes, sentir le ventre frôler son dos, son cul, ses cuisses, les mains entraînées dans ses profondeurs, jusqu'au plaisir qu'il éprouva lorsque la bouche de Violetta, ses dents, pénétrèrent ses chairs. Ils s'endormirent l'un dans l'autre.
C'est chaud sur la première, et c'est la voix de Pierre Crevoisier qui raconte l'histoire de l'arbre. Ça, c'est Adrienne Barmont, donc l'illustratrice qui accompagne cette nouvelle-là, qui a créé tout un univers là-autour, à retrouver aussi en papier quand les librairies réouvriront. Ça, ce sera dans quelques temps. Vous avez toutes sortes de partenaires aux quatre coins de la Suisse romande. Et puis ces podcasts que vous avez enregistrés sont accompagnés de la musique d'Alain Tissot. Chacun de ces 12 podcasts, là, il y en a qu'un qui est sorti pour le moment, c'était celui-là.
Trois, c'est le troisième. L'arbre, c'est le troisième.
Ouais. Eh bien voilà, je me suis trompée. Je crois que ça dure environ à chaque fois 20 minutes, c'est ça ?
À peu près 20 minutes, chaque nouvelle, une vingtaine de pages, donc 20 minutes de podcast, oui.
Alors, comment ça s'est passé avec Adrienne Barmont ? Comment vous avez travaillé ? Vous lui avez soumis donc le texte et ensuite elle illustre, c'est ça ?
Comme avec toutes les autres, je joue véritablement la carte blanche. Je me réserve simplement le droit de d'écarter peut-être quelque chose qui pourrait ne pas me plaire, vraiment, vraiment, qui ne me déplairait. Mais en tous les cas, j'essaye de dire, voilà, j'ai écrit quelque chose, je vous transmets. Avec Adrienne, les choses se sont faites à distance, hein, à travers Skype, à travers le téléphone. Non, pas le téléphone, puisqu'elle n'aimait pas le téléphone, elle. Donc à travers Skype. Et donc, je lui ai envoyé simplement le texte. Elle m'a envoyé... Adrienne Barmont est une professionnelle, mais chacune a sa sensibilité propre. Et jusqu'à présent. Ça fonctionne
donc,
parfaitement.
L'idée, donc, c'est de faire des souscriptions. Je crois que vous avez environ 120 abonnés pour le moment. Je crois que ça coûte un peu plus de 100 francs pour l'année, c'est ça ?
Alors, il y a plusieurs versions. On peut acheter soit la nouvelle ou le livret ou la sérigraphie, puisque chaque illustration est transformée en sérigraphie. Donc, il y a ces trois options. Hein, la possibilité de simplement, pour les oreilles, d'écouter, lire le livre, et puis la sérigraphie avec le livre et avec le podcast.
Donc ça, on trouve sur lepoissonvolant.ch.
Sur lepoissonvolant.ch. Alors, on peut acheter à l'unité ou alors s'abonner pour la série, s'abonner pour les podcasts. C'est à peu près 48 francs.
Bon, Pierre Crevoisier, bon alors c'est quoi cette idée ? Vous voulez faire un Netflix du podcast, c'est ça ? Vous voulez rendre...
Netflix de la littérature. Oui, non, c'est vrai que, c'est peut-être un peu présomptueux, mais c'est vrai que cette idée à terme, puisque au-delà des gens érotiques, ce serait intéressant de pouvoir de développer le poisson volant avec d'autres auteurs, avec d'autres artistes, c'est un appel du pied peut-être, mais toujours avec cette idée de travailler sur la série, sur la collection, proposer effectivement des épisodes régulièrement en différents formats. Toujours le livre, l'écriture et le livre restent au centre, mais avec leurs interprétations numériques, podcast, audio, vidéo, objets connectés, pourquoi pas.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours ce besoin du papier, et je crois que c'est très important pour vous, Pierre Crevoisier, le papier. C'est juste tout comme vous, Jean-Marc Charrière. Je crois que tous les deux, l'apparition de votre premier ouvrage, le fait que vous ayez pu tenir votre histoire dans vos propres mains, Jean-Marc Charrière avec Les vaches pleurent dans les coulisses des élevages, aux éditions Nature, aidez-moi.
Libre.
Nature libre, voilà. C'était quelque chose d'important pour vous, ce moment-là.
Oui, effectivement. Hein. On achève quelque chose qui a pris quand même beaucoup de temps. De par l'écriture, l'écriture, la mise en page, enfin tout l'aspect création du livre en lui-même, mais il y a tout le parcours qui va avec. En fait, c'est pas, enfin, c'est un an et demi d'écriture, mais c'est 15 ans de parcours de vie. Donc c'est, oui, ça représente quelque chose de très important.
Jean-Marc, si je peux, moi ce qui m'a frappé le plus, je sais pas si ça vous a frappé aussi, il faut enlever le masque, mettre le nez dans le livre, le sentir.
Oui. Il y a une odeur,
ça,
oui.
C'est extraordinaire.
Oui. Il y a une odeur, il y a, oui, c'est un tout, c'est vrai que c'est...
On va renifler de la page. Il s'en prend un shoot, Pierre Crevoisier.
Une petite ligne.
Une petite ligne, exactement, ouais. Ça, c'est vrai que c'est bien dit, Pierre Crevoisier. Bon, et vous, l'émotion que vous avez aussi eue quand vous avez écrit votre premier ouvrage, ça s'appelle Le Manteau Rouge, c'est paru en 2013. C'était quelque chose de fort, Pierre Crevoisier. Aussi, ce besoin de tout à coup de mettre les choses par écrit, d'y être, quoi.
Jean-Marc parlait tout à l'heure de ce moment de doute. En ce moment, plus que de doute, quoi, où on touche le fond, c'est ce qui est arrivé à ce moment-là. Et ce qui est très très curieux, c'est que j'avais à cette époque-là, avant.
Mais qu'est-ce qui s'est passé pour vous toucher le fond, Pierre Crevoisier ? Enfin, sans vouloir être indiscrète, mais.
On a parlé tout à l'heure de ce projet, d'un projet que j'avais monté avec le covoiturage.
C'était, vous travailliez à la PFL à l'époque, c'était ça?
C'était après, etc. Donc, un échec. Ensuite, revenir à l'époque, je vous dis, hein, j'ai commencé à travailler à la RTS. J'avais pas du tout envie de travailler à la radio. Et j'y suis allé à reculons. Donc, c'est un petit peu, cette remise en question profonde en disant, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Et, voilà. Alors, il y a un moment noir, et je sors de ce temps-là par une retraite de méditation. Je me souviens de la petite phrase du prof de méditation qui disait alors, nous sommes de petites merdes qui nous prenons pour le centre du monde. Aujourd'hui, nous savons que nous sommes de petites merdes, mais infiniment précieuses.
C'est beau, vous leur dites une fois encore.
Nous sommes de petites merdes qui nous prenons pour le centre du monde. Aujourd'hui, nous savons que nous sommes de petites merdes, mais infiniment précieuses. Je trouve qu'il y a cet humour aussi dans la méditation qui permet d'arriver à ça. Et je suis sorti de cette retraite de 10 jours de silence avec la certitude que c'est ça que je devais faire. Et le manteau rouge, je l'écris en 2 mois et demi.
C'est une histoire aussi assez voluptueuse, non ?
Oui, c'est une rencontre amoureuse, oui, très très difficile, très compliquée, oui. Mais très voluptueuse, oui.
Pierre Crevoisier et Jean-Marc Charrière sont les invités de Premier Rendez-vous. On va écouter un copain à vous, Jean-Marc Charrière. Il s'agit de Pierrick Détra. Ça s'appelle « Maintenant, on est là ». Et puis derrière, on va parler des objets que vous avez apportés. C'est parti.
Faire le coup de la fable, à dormir debout, tout caché sous le sable, ça n'ira plus du tout. Maintenant on est là, là, là. Y'a le monde qui brûle, il est devenu fou. Quand on fait le calcul, ça craque de partout. Maintenant on est là, là, là. Si tout va de travers, que ça sent plus la rose, c'est qu'on a découvert vos petits poteaux roses. Maintenant on est là, là, là. Ça ne nous fait plus rire, arrêtez de freiner. On veut notre avenir, c'est pas plus compliqué. Maintenant on est là, là, là. Accrochez les lampions, juste un peu de lumière, et dire que c'est bon. On n'est pas né d'hier, maintenant on est là, là, là. Faire passer la pilule, c'était pas compliqué. On était trop crédule, on pouvait l'avaler. Maintenant on est là, là, là. Il faudrait qu'on nous dise comment vous vous allez. Mouillez votre chemise pour ne plus reculer. Maintenant on est là, là, là. Depuis vos grands sommets, tout là-haut, tout là-bas, si vous nous observez, on n'est plus tout en bas. Maintenant on est là, là, là. Ça serait le firmament de bien tendre l'oreille. On n'a plus trop le temps, on sonne le réveil. Maintenant on est là, là, là. Sans vous faire de peine, tous vos polichinelles, ils sont bons pour la peine, à mettre à la poubelle. Maintenant on est là, là, là.
Notre cloche a sonné, elle marque le temps. Il faut vous réveiller, c'est le dernier moment. Maintenant on est là, là, là. On marche dans la rue, on est votre conscience. On marche dans la rue et sur vos insouciances. Maintenant on est là.
Pierrick Détra sur La Première, on jette un œil sur la route.
Infotrafic RTS.
Sur la une Lausanne-Genève, il n'y a désormais plus de danger lié à la présence d'objets sur les voies entre Crissier et Morgeste. Et sur la 9 Vevey-Lausanne, la circulation demeure fortement ralentie entre Vevey et Lutry. En direction de Lausanne, on déplore désormais deux accidents sur ce tronçon. Vous écoutez Premier Rendez-vous aujourd'hui dans l'émission Jean-Marc Charrière, auteur des Vaches pleurent dans les coulisses de l'élevage. Vous êtes un ancien éleveur de bovins, devenu maintenant travailleur social. Puis à côté de vous, il y a Pierre Crevoisier, journaliste et inventeur de projets multimédia dingue, on va dire ça comme ça. Jean-Marc Charrière, Pierre Crevoisier, je vais vous demander de vous saisir des objets qui vous tiennent à cœur et qui vous racontent un peu. Alors Jean-Marc Charrière, vous avez apporté quoi ?
Alors, c'est un couteau suisse version
XL. Ça, c'est votre passé dans la défense ? Non, c'est pas la défense. Comment on appelle ça ?
La sécurité, non, c'est plutôt lié... Oui, même si c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais souvent, enfin que j'avais tout le temps avec moi. Mais en fait, c'est un outil que j'ai, que je trimballe un peu partout.
Quand on est convoyeur de fond, on a ce genre d'outil avec soi,
oui. Oui aussi, oui, ça peut être utile.
Donc c'est quoi, il y a un couteau d'un côté,
il y a une pince. Oui, c'est ça. Mais c'est pas du tout le même usage, ça c'est plus pour dépanner quand il faut un tournevis ou régler un problème technique, un couteau pour couper le pain ou voilà, ça c'est un outil multifonction puis on fait plein de choses avec ça et puis c'est
un tire-bouchon quand même.
Non, pas sur celui-là, ouais, ça c'est sur l'autre, le plus petit, ouais, effectivement, ça c'est ce qui manque là-dessus.
Bon, alors, la symbolique de cet objet pour vous, Jean-Marc Charrière?
Ça représente un petit peu, mon côté polyvalent, je sais faire plein de trucs, et puis, ça représente bien, ça, mon côté aussi peut-être un peu terre à terre. Ben, voilà, ce que ça représente.
À quel moment vous êtes dit j'ai envie de venir en aide aux humains, en fait, parce que vous avez longtemps travaillé avec les animaux avant de connaître ce clash que vous avez expliqué tout à l'heure. Vous avez travaillé une dizaine d'années dans la sécurité, comme Securitas, comme convoyeur de fonds, etc. Oui. Et puis après, en 2013, vous décidez de faire l'école sociale à Sierre. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie à ce moment-là?
J'ai travaillé dans la sécurité dans le domaine hospitalier et puis j'étais confronté un petit peu à un échantillon représentatif de ce qui se passe dans notre société et de ce que vivent les êtres humains à travers des situations parfois dramatiques. Et puis ça a été un tournant, j'ai eu envie de venir en aide aux personnes vulnérables, que ce soit là professionnellement avec les humains, mais aussi avec les animaux à travers mon engagement.
Et vous avez toujours des animaux aujourd'hui, Jean-Marc Charrière?
Oui, j'ai des poules que j'ai sauvées de l'abattoir.
Des poules qui pondent ou pas?
Oui, elles pondent, ouais.
Vous mangez les œufs ou pas?
Alors on les mange, moi j'en mange peu, mais on les mange encore ou on les donne à droite à gauche. Et puis j'ai un chat aussi.
Bon, celui-là, on va pas le manger.
Non, mais les poules ne seront jamais mangées.
Non plus?
Non.
Jean-Marc Charrière, vous êtes assis à côté de Pierre Crevoisier qui a porté quoi comme objet, lui?
Une pierre.
Une pierre?
Un caillou.
Une pierre pour Pierre?
Une pierre pour Pierre. Je suis Pierre, poisson, ascendant kangourou.
Ascendant kangourou, très bien. Oui, vous faites de l'aquaponie, vous, paraît-il.
Oui, tout à fait.
C'est quoi l'aquaponie, alors? Ça n'a rien à voir avec des poneys, pour ceux qui ne connaissent pas.
Non, effectivement, l'aquaponie, c'est la fabrication d'un écosystème qui permet d'élever des poissons. Les poissons, par leur déjection, nourrissent les plantes, qui purifient l'eau, qui retourne au plafond. Au plafond. Ça y est, au poisson. Ça y est.
Encore une petite ligne.
Les vaches pleurent dans les... J'avais lu les couloirs des élevages, dans les coulisses des élevages. Donc voilà, donc j'ai amené ce caillou parce que je suis un ramasseur de pierres. Chaque fois que je vais quelque part, les cailloux ce sont les symboles des lieux que j'ai traversés. Celui-là vient d'Alaska où j'étais il y a 3 ans. J'étais invité justement
pour une résidence littéraire.
Et puis voilà, ça c'était j'essaie chaque fois de trouver un caillou qui ressemble au lieu et qui va qui va marquer d'une pierre blanche, noire, rouge, enfin de toutes les couleurs, ce moment que j'ai passé. Voilà.
Bon, celui-là est lisse comme une joue ou une épaule, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre Crevoisier? Les pierres sont sensuelles pour vous?
Les pierres, oh, bien sûr, parce que j'essaie chaque fois. Parfois, elles peuvent être abruptes. Celle-là, elle est très très ronde, un petit peu comme un œuf. Et c'est vrai que c'est la sensation que l'on peut avoir de la caresser, de la prendre dans la main, de la caresser, de puiser sa chaleur ou sa fraîcheur.
Il y a une histoire de cailloux parmi les je vais y arriver, déjantés érotiques. J'arrive pas à le dire en un mot, je suis désolée. Allez-y, dites-le.
Déjantes érotiques.
Déjantes érotiques, voilà, c'est ça. C'est comme si c'était des jantes de voiture érotiques, c'est ça.
Exactement.
Même si c'est pas du tout le cas.
Il pourrait y avoir ça. Parce qu'il y a une histoire de cailloux. Non, mais il y a des histoires de robots. C'est ma première nouvelle de science-fiction. Non, mais il n'y a pas d'histoire de
cailloux. Bon, en tout cas, auditrices et auditeurs, rendez-vous sur poissonvolant.ch pour écouter les nouvelles de Pierre Crevoisier. Pierre Crevoisier, vous avez cet élevage d'aquaponie, mais vous êtes incapable de tuer un animal, vous aussi, paraît-il.
C'est ce que je disais tout à l'heure, mais c'était un petit peu un coming out parce que j'avais peur que Jean-Marc m'en veuille à vie. Mais c'est vrai que Je disais tout à l'heure, j'ai ces carpes et j'ai une frayeur chaque fois que je dois. Je veux dire, je pêche un poisson et d'ailleurs ça vient de l'époque où j'étais en plein Atlantique. La première fois que j'ai pêché un poisson, c'était une dorade coryphène comme ça, magnifique, qui était verte, jaune, bleue, enfin qui est extraordinaire. Les dorades coryphènes sont des animaux extraordinaires. Et au moment où je l'ai tué, mon premier animal que j'ai tué, elle est devenue grise en 30 secondes. Je trouve qu'il y a un symbole qui est absolument incroyable. Et je crois que ça me poursuit et sans doute que l'année prochaine.
Bah vous ferez plus d'aquaponie, vous ferez.
Non, mais je mettrai des coilles. Les poissons qu'on mange plus.
Pierre Courvoisier, merci beaucoup en tout cas d'être venu dans l'émission à la rencontre de Jean-Marc Charrière. Jean-Marc Charrière, je rappelle le titre de votre ouvrage qui est aussi un témoignage, s'appelle Les vaches pleurent dans les coulisses des élevages aux éditions Nature Libre. On vous retrouve aussi sur les réseaux sociaux.
Oui.
Jean-Marc Charrière, pour ceux qui auraient envie d'échanger avec vous sur leur expérience.
Plutôt sur Nature Libre.
Nature
voilà.
Libre.
Voilà.
Alors c'est parti comme ça. Merci à tous les deux, belle suite.
Merci.
Merci.
Premier rendez-vous, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Alexandre Davoine qui assurait en régie. Notre attaché de production, c'est Marilyn Regard. Les choix musicaux ont été signés Jean-Baptiste Roumens. Dans quelques instants, la joie de retrouver Lucas Torrent pour à l'abordage. Sur la première, il va être 15h. Douce fin de journée à vous et à demain. Au revoir.